Dans ce journal, on revient sur cette alerte à la bombe qui a paralysé l'aérodrome de Hua Hin hier. On vous parle aussi de consommation et du triathlon de Moréa. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Les auteurs de la fausse alerte à la bombe sont recherchés.
Oui, la directrice de cabinet du haut-commissaire Emilia Avez, la procureure de la République Solène Bellawar et le commandant de la gendarmerie en Polynésie française Grégoire Demaison ont fait le point en fin d'après-midi hier sur l'alerte déclenchée dans la matinée à Hua Hin lorsqu'un appel anonyme a fait état d'un engin explosif dans l'aérodrome. On écoute le colonel Grégoire Demaison.
Fait l'alerte est levée, donc l'aérogare a été réouverte et les vols vont reprendre progressivement de manière normale. La gendarmerie a mobilisé un certain nombre de capacités tout au long de la journée, à la fois en termes d'ordre public, avec la mobilisation des gendarmes de Hua Hin, d'un certain nombre de réservistes pour permettre la mise en sécurité de l'aérogare et permettre le travail des démineurs dans de bonnes conditions. Et puis, la deuxième grande fonction sur laquelle on a travaillé, c'est également évidemment les investigations judiciaires qui débutent à ce stade, qui ont été confiées à la section de recherche de Papeete et qui ont mobilisé tout au long de la journée une dizaine d'enquêteurs.
Solène Bellawar, de son côté, a précisé les peines maximales encourues par les personnes responsables de fausses alertes comme celle-ci. 2 ans de prison et 3,5 millions d'amendes. Ils peuvent également être tenus de rembourser les frais occasionnés notamment par les retards d'avion. 2 vols et 60 de passagers ont été affectés par cette alerte. La circulation aérienne a été rétablie à 16h45 hier.
L'écart des prix entre la Polynésie et la métropole se réduit.
Oui, l'Institut de la Statistique publie les résultats de son enquête de comparaison spatiale des prix. Elle met en regard les paniers moyens de consommation au Fénois et en métropole. Et de 39% en 2016, cet écart est descendu à 31% en 2022. Nadine Jourdan, directrice de l'ISPF.
On observe un écart de prix de 31%, donc un surcoût de prix en Polynésie française par rapport à la France hexagonale. Par rapport à 2016, la précédente mesure, on observe que cet écart s'est réduit de 8 points. Néanmoins, 3 points dans cette réduction de l'écart proviennent des prix des carburants qui aujourd'hui sont moins chers en Polynésie.
Alors dans le détail, un Polynésien consacre 25% de son budget à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées, alors que ces produits ne représentent que 15% du budget d'un habitant de la métropole. Les surcoûts les plus importants en Polynésie concernent d'abord l'alcool et le tabac, qui sont 83% plus chers, puis l'hôtellerie et la restauration, 75% plus chers, et les produits alimentaires et les boissons sans alcool, 45% plus chers ici qu'en France. Dans cette catégorie, ce sont les produits laitiers et la charcuterie pour lesquels l'écart des prix est le plus marqué. Seules exceptions, le poisson frais et les viandes importées de Nouvelle-Zélande. C'est moins cher aux Fénois que le poisson et la viande proposés aux consommateurs métropolitains.
Les métiers du secteur primaire tentent d'attirer.
Oui, la première édition du Forum des métiers du primaire et de l'artisanat traditionnel s'est tenue hier à l'Assemblée. Alors ce salon avait pour but de mettre en valeur le secteur primaire et les savoir-faire des nombreux artisans locaux. Susciter des vocations était aussi le mot d'ordre de cette manifestation, mais aussi présenter les différentes formations et aides à la disposition de ceux qui désireraient se lancer dans ce domaine. Stand des métiers de l'artisanat, stand des métiers de la mer et de l'aquaculture, les lycées agricoles ou professionnels, les organismes de financement, tous ont fait le plein de visiteurs, tant adultes qu'adolescents. Touare Nuitofa, technicien agronome au sein de la Chambre d'agriculture, regrette qu'en son temps, ce type d'événement n'existait pas.
Les jeunes sont très demandeurs parce qu'on essaie de leur faire comprendre que le secteur primaire, si c'est le secteur primaire, c'est que c'est le début de tout. Du coup, voilà, pour manger, il faut planter déjà. Et puis économiquement, c'est quand même quelque chose de durable parce qu'on va toujours manger. Du coup, on achètera toujours à manger, quoi. Donc, si tu es le premier maillon, le reste y suit. Et puis économiquement, il n'y a pas de souci pour écouler les produits locaux, je parle. Hein.
Votre passionnée, Teva Hine Teariki, elle est artisane et cette journée est en quelque sorte une reconnaissance pour elle et pour son travail. Sur son stand, beaucoup de jeunes et beaucoup de questions dont une revenait souvent, peut-on vivre de l'artisanat? Et pour Teva Hine, la réponse est oui, mais à condition de se diversifier.
Ben, il y a eu beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont passés les heures. Il y a eu beaucoup de questions. Il y en a, c'est une découverte pour eux. Il y en a qu'en regardant comme ça, ils ne savent pas que c'est un palmier une fois qu'il est travaillé. J'ai l'impression que c'est nouveau pour eux. La question, c'est pourquoi tu as choisi ce métier? Est-ce qu'on peut en vivre? Je dis oui, ça fait 13 ans que je vis de l'artisanat. Donc, pour l'artisanat que j'ai fait, ce n'est pas juste la vannerie, c'est de la couture, de la fabrication de bijoux. Enfin, il faut diversifier. Au fait, il faut être à l'écoute aussi des personnes qui sont en face de toi.
De toute évidence, le Forum des métiers du primaire et de l'artisanat traditionnel a atteint son but, celui de susciter des vocations. Reste à espérer qu'une deuxième édition suive.
Et les bagarres inquiètent au collège de Paya.
Oui, stop, c'est le message que souhaite faire passer l'association des parents d'élèves après les deux bagarres qui ont éclaté aux abords et dans l'enceinte de l'établissement cette semaine. Une situation très fréquente selon le personnel. Pour endiguer ce phénomène, l'établissement travaille depuis le début de l'année conjointement avec la commune et sa brigade de police. Un partenariat nécessaire mais qui ne semble pas si efficace, comme en témoigne le nombre d'exclus sur les 9 semaines de cours depuis la rentrée. 33 exclusions, dont 20 pour violences verbales ou physiques. L'APE a donc proposé son aide au principal. Elle parle notamment d'actions de prévention dans les classes, mais aussi de la mise en place d'une brigade des parents qui interviendrait ponctuellement pour venir en aide aux surveillants, qui ne sont que 4 pour les 654 collégiens. Selon l'association, le principal ne serait pas contre ce coup de main. Le recrutement d'un cinquième surveillant serait aussi à l'étude, mais les parents d'élèves espèrent plutôt voir leur nombre doublé.
Bientôt une table ronde sur les sujets LGBTQ+.
Oui, dans la continuité du programme du Tavini qui s'engage à promouvoir l'égalité des sexes et la diversité sexuelle et de genre dans tous les domaines, et bien pour la première fois en Polynésie, un état des lieux va être dressé sur le thème des discriminations rencontrées par les personnes LGBTQ+. Les 7 et 8 novembre, la table ronde abordera donc plusieurs sujets liés aux diverses formes de discrimination dont souffrent ces communautés. L'événement sera ouvert au public.
Et le triathlon Xterra de Montréal revient ce week-end.
Oui, 8e édition et des épreuves étalées sur 2 jours. Samedi, les meilleurs mondiaux de la spécialité seront sur la ligne de départ avec des épreuves de natation sur 1,5 km, un parcours VTT de 34 km et 10 km de trail pour finir. L'organisateur Jean-Michel Monod parle d'un parcours exceptionnel mais aussi d'un plateau d'engagés de très haut niveau.
C'est vraiment un sport magnifique à voir avec cette année un plateau comme jamais on a eu. On a ce qui se fait de mieux dans le monde du triathlon nature actuellement. On a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 chez les hommes, ce qui est exceptionnel. Et on a la numéro 1 mondiale qui est une Française également. Donc on est très fiers de les recevoir chez nous.
Et parmi les participants, Arthur Serrière, champion du monde Xterra 2022-2023, pour qui c'est toujours un plaisir de participer à cette épreuve, même si normalement, à cette période de l'année, il est plutôt en récupération.
En fin de saison, comme ça, comme entre guillemets dernière course de la saison, c'est incroyable. Déjà, je pense qu'il y a des gens qui rêvent toute une vie de pouvoir aller à Tahiti. Nous, on a cette chance de pouvoir le faire dans des conditions exceptionnelles et puis aussi dans un état d'esprit un peu différent, c'est-à-dire que nous, on ne va pas venir ici en tant que touristes. On est vraiment intégrés par la population locale, on peut vraiment profiter des gens comme ils sont, et c'est des événements, on s'en souvient toute notre vie, et c'est vraiment une course à part entière et vraiment inégalable nulle part.
Et à noter qu'après cette épreuve reine de samedi, les épreuves de triathlon court se dérouleront dimanche avec à partir de 12 ans une épreuve de natation de 300 mètres, un parcours VTT de 6,5 km et un trail de 3,5 km. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Retour de l'actualité à 7h30 avec la revue de presse locale.
Merci beaucoup Valdemar.